Mais nous allons tout d'abord commencer donc avec Shot Direct et avec Cyril Test. Bonjour à vous. Donc vous présentez ce spectacle à la
Ah.
chapelle des... Voilà, pas trop près, je pense. Vous présentez ce spectacle à la chapelle des Pénitents Blancs du 21 au 24 juillet. Alors je pense qu'il est Patrick Bouvet n'a pas pu être là ce matin, mais je crois qu'il est quand même assez important de raconter d'abord l'écriture de Patrick Bouvet. On racontera peut-être après la rencontre entre vous deux, parce que Shot et Direct, qui donc forment le titre du spectacle, sont deux textes de Bouvet écrits à des périodes différentes et selon des procédés d'écriture assez différents, mais en même temps assez similaires. Donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette écriture de Bouvet qui est faite de cut-up et qui n'est pas une écriture personnelle au sens strict du terme, puisque ce sont des messages et des mots extirpés du discours médiatique.
Ben oui, Shot Direct, en fait, c'est un diptyque. Nous, on a monté Shot et Direct, mais il y a In Situ aussi, parce que Patrick a écrit ça sur trois livres. Donc nous, In Situ, on le montrera plus tard pour l'instant. Le principe déjà de Direct, nous, quand on a monté Direct, ce qui nous a intéressé, c'est que Patrick a récupéré le jour du 11 septembre environ 150 phrases du journal télévisé, de CNN jusqu'à TF1. Et puis à partir de là, il a commencé à décliner ces phrases-là au point de renverser un petit peu le sens de l'événement. Parce que ce qui nous avait pas mal marqué, c'est le fait que il y a eu à peu près 4 avions qui se sont écrasés. Et puis à la fin de la journée, on en a recensé 160 à peu près. 160 avions qui se sont écrasés sur 160 tours, puisqu'on a revu à peu près bien 100 fois la même chose pendant une journée. Donc c'est de là qu'est parti Patrick Bouvet sur ce principe-là. Et nous, ça nous a énormément intéressé parce que nous, on est vraiment impliqués dans la culture médiatique. Parce que voilà, déjà c'est notre génération, parce que la télévision, c'est quelque chose qui nous est très proche. Et puis c'est quelque chose qui, petit à petit, nous désensibilise parfois un peu trop de notre réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Et puis, le principe de Shot est exactement le même. En fait, il a récupéré de 45 à aujourd'hui à peu près toutes les légendes de photos qui ont marqué l'histoire à travers des grands événements comme les attentats de 72, des Jeux Olympiques, il y a eu Hiroshima. C'est un petit peu un Paris match, c'est-à-dire c'est le poids des mots, le choc des photos. Et c'est un peu toujours la même question, c'est-à-dire quel vocabulaire pour quel événement, et puis au bout d'un moment, si on renverse le vocabulaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça produit?
Alors, quel est l'effet produit pour vous de cette écriture et de cette fragmentation et en même temps de cette répétition de l'information à l'intérieur de l'écriture de Bouvet?
La première chose, moi, qui m'a. Alors, ce qui est très bien chez Patrick, c'est que lui, il a rendu justement. Parce que quand on parle des 150 phrases, c'est pas non plus un recensement scientifique, c'est quand même quelque chose qui tend vers quelque chose de poétique, quand même. Moi, ce qui me frappe à l'esprit, c'est cette idée de matraquage, en fait. C'est jusqu'où notre mémoire est capable, à un moment donné, de savoir bien différencier chaque événement, chaque réalité. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de traverser à travers ce spectacle, c'est de voir jusqu'où l'hystérie des médias, à un moment donné, nous écarte petit à petit de l'histoire, quoi. Alors, Patrick, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des solutions quand même à son écriture. C'est-à-dire qu'au début, on rentre dans ce bruit. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'à travers ce qu'il lui insuffle comme phrase, parce que c'est quand même parfois assez politique ce qu'il dit, ce qu'il raconte, je trouve que ça a tendance à faire écho. Parce que on prend un journal télévisé comme le 11 septembre, où on a quand même. Par exemple, le verbe, nous allons vous remontrer ces images de panique. Ça, c'est une phrase qui a été répétée sur toutes les chaînes et pendant toute une journée. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un ronronnement. Et
Qui crée la
maintenant,
panique.
pardon?
Qui crée la panique.
Absolument, mais c'est-à-dire qu'il se sert de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va voir les avions percuter le territoire de l'image. Mais là, ça résonne autrement. C'est ça qui moi, m'intéresse. Parce qu'en fait, on a une vraie musique depuis toutes les décennies. Au niveau de la télévision, au niveau de la radio, au niveau de tout cet environnement-là, il y a quand même une musique, un ronronnement qui fonctionne toujours de la même façon. On a une esthétique de l'image, l'esthétique, on prend quelques chaînes que ce soit, on a une esthétique de son, toutes ces choses-là sont assimilées d'une façon où on oublie petit à petit, bah, ce qu'on regarde et de quoi on parle. Et peut-être que si on injecte dans ce ronronnement-là des mots qui n'ont rien à voir ou qui n'ont plus à voir avec le sujet, je pense que ça commence à susciter des réactions, quoi.
Alors, ces deux textes, Schott et Direct, n'ont pas du tout été écrits pour le théâtre, hein, puisque Bouvet publie mais n'écrit pas spécifiquement pour le théâtre. Comment vous, metteur en scène, avez eu envie et êtes passé à la scène avec ces textes-là, qui sont logiquement, qui n'ont pas besoin de traduction visuelle et scénique? Comment s'est fait la rencontre et pourquoi ce désir de faire passer cette parole et ce texte-là à la scène, tout simplement?
Déjà, aujourd'hui, le théâtre, bon, c'est vrai qu'il y a un répertoire. Et moi, je l'ai trouvé très intéressant pour moi et pour notre équipe de pouvoir s'attaquer à des textes qui ne sont pas des textes de théâtre au départ. La première chose, c'est de pouvoir se rendre étranger à quelque chose. Donc, parce que moi, je ne suis pas habitué à ce genre de texte. Et j'ai voulu un petit peu aussi me mettre en danger. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis capable de raconter ce que je lis? Et donc on est parti sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'on est parti sur un principe de lecture à la table. On n'a pas voulu, pas de décor possible, pas de mouvement dramaturgique, des acteurs qui marchent sur un plateau pour raconter une histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ce sont des successions d'événements, et c'est un sampling, c'est un travail très musical. Donc on est parti plutôt dans ce sens-là. Nous, on a voulu faire une musique, créer justement un environnement sonore et musical autour de ces textes-là, et on a essayé d'être fidèle à notre étape de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était sur Direct, à Montevideo par exemple, les acteurs, j'aurais dit, vous avez une table, deux micros, et puis on va lire le texte. Et petit à petit, on a construit autour toute une architecture musicale, vidéo, lumière, qui ont construit cet univers-là. Schott, c'est exactement le même principe. Nous, pour dire un petit peu le trajet, à Montevideo, on avait monté Direct chez Hubert Colla, qui au départ, on ne voulait pas en faire une représentation, on voulait juste nous faire un laboratoire sur ces textes-là. Et puis ensuite, on a travaillé avec la 3BC Compagnie à Toulouse, qui eux sont venus nous voir, et puis on travaille avec eux depuis un petit moment, pour justement cette volonté de continuer le trajet de Schott et peut-être in situ pour la suite, et de garder ce système qui est un laboratoire. On essaye des choses sans se poser la question du spectaculaire pour l'instant. Et donc on a essayé de mettre ça à la scène. Donc ce qui fait que c'est une scénographie qui est assez simple sur le plateau, puisqu'il y a des pupitres, deux tables, des micros, enfin ça reste très 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 simple. Par contre, on a essayé de créer un univers assez sophistiqué en ce qui concerne la vidéo, le travail de l'acteur à partir du texte, et puis le travail musical, une interactivité, quoi.
C'est Patrick Bouvet qui dit qu'il est un écrivain plasticien.
Oui. Ouais, ouais.
Ça aide, ça, pour faire une mise en scène?
Mais c'est vrai, hein, c'est très propice à des installations, son écriture. Moi, le prochain travail que je vais faire, ça va être encore sur Patrick. C'est vrai que cette écriture s'y prête énormément. Les propositions, en tous les cas, sont très ciblées, je trouve. C'est pour ça qu'au théâtre, c'est moi qui m'intéresse à tous ces éléments-là. Je redis la vidéo, la lumière, enfin, toutes ces choses-là. Je trouve que c'est un beau support, les textes de Patrick, pour ça.
Mais vous parleriez c'est des étiquettes, mais de spectacle de théâtre ou d'installation?
Non, c'est quand même du théâtre. Moi, j'y tiens parce que le théâtre, ça, sous toutes ses formes, et ça en est une autre, encore une autre forme. Et je tiens particulièrement à dire que c'est du théâtre avant une performance ou une installation, parce que j'ai envie de raconter. Je suis dans le théâtre depuis longtemps, je tiens énormément à cette forme-là, et je pense que le théâtre a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire à exploiter et à découvrir encore aujourd'hui, quoi. Et sans forcément se perdre dans des performances forcément autres que celles du théâtre, quoi.
Alors, vous disiez donc que c'est un processus assez simple scénographiquement, de table, de projection, etc. Il y a trois comédiens sur scène. Comment s'est fait la répartition des voix, sachant que personne ne parle dans les textes de Patrick Bouvet, ou alors ce sont les médias qui parlent?
Ouais. Déjà, c'est les acteurs qui ont fait un gros travail. Moi, je leur ai mis le texte en face. On a énormément décortiqué parce qu'il y a eu des parts de hasard dans le travail de Bouvet. Et il y a des choses qui sont quand même très écrites, très calculées. Donc moi, mon travail a été de leur disséquer un petit peu la structure du texte. Ensuite, on est parti sur une série de propositions. Alors sur Shot, on est parti sur un système presque, je dirais, un zapping de radio. Parce qu'il n'y a peut-être pas de personnes qui parlent, mais en réalité, il y a énormément de voix. Et ce qui était très beau, c'est de voir que ça peut traverser des mélanges de slogans, de propagande de 45 jusqu'à des choses, jusqu'à 2000, parce que Shot, ça traverse vraiment toute cette période-là, et d'essayer de voir un petit peu comment on triture la chronologie historique à travers ce que je disais tout à l'heure, cette musique médiatique qui peut être autant visuelle qu'auditive, et d'essayer surtout de trouver un ludisme, parce que c'est quand même très ludique. C'est notre travail, il est quand même très précis, puisque les acteurs jouent en interactivité avec la vidéo, et puis entre eux. Donc ça a été construit comme une partition. D'ailleurs, la raison est qu'ils ont des pupitres tout simplement pour lire leur partition, parce que c'est assez compliqué parfois. Et de manière intuitive, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ramener ce texte au concret. C'est-à-dire que ces voix qu'on entend, c'est des voix qu'on a peut-être un petit peu tous dans notre inconscient, en tous les cas le nôtre, je ne prétendrai pas celui de tout le monde, mais en tous les cas c'est cet inconscient un peu collectif du média, du slogan, de la propagande, de tout ce qui tend un petit peu à spéculer sur l'histoire. Et je trouve que quand même si on parle d'une période très longue, je me rends compte qu'on évolue. Il y a très peu d'évolution. C'est quelque chose, on reconnaît énormément des intonations, des façons de dire les choses, des façons de les proposer. Il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a très peu de différences. Si on écoute bien la télévision, on nous parle toujours de la même façon. On a un peu sophistiqué notre façon de parler, mais on a toujours un petit peu, en tous les cas, moi, de mon regard extérieur, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des enfants ou un petit peu pour des cons, par moment. La manière dont on s'adresse à nous.
C'est en ce sens que Direct est une suite de shots et que cela peut constituer un seul spectacle. Parce que s'il y a deux textes et deux approches de l'histoire et des médias différentes, c'est quand même un seul spectacle, Shot Direct. Il y a une barre entre les deux. Mais...
Il y a une barre, oui. J'ai mis la barre parce que tout simplement, il n'y a pas de chronologie particulière ou de... Oui, d'une avancée dans le discours particulier, puisque ça part un peu dans tous les sens. Par contre, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que Patrick a écrit Shot en 99, et la dernière phrase en fait de Shot, c'est simplement qu'il raconte une photo où il voit les tours jumelles ravagées par une explosion permanente. Donc ça, c'était en 99, l'attentat n'était pas encore arrivé, et lui me disait, j'avais envie d'écrire quelque chose sur la télévision, sur les médias, comment ces gens s'adressent à nous. Et qu'est-ce qui reste de la réalité après ces événements-là? Et ce jour-là, le 11 septembre arrive, il branche son magnétoscope et il fait un zapping, il zappe de chaîne en chaîne parce qu'il a compris que c'est exactement ça qu'il pouvait suivre après Shot. Alors oui, il y a une chronologie, parce qu'on fait 45, 63, 72, 85, 96, 99, 2000, et on a 2001. Donc quelque part, c'est un hasard. Cet événement-là, et en réalité, il s'en est vraiment servi comme chronologie. Mais il y a quand même une rupture entre les deux textes. On passe à autre chose. On passe de la photo à la télévision, donc forcément, on ne peut pas faire deux spectacles identiques. On ne peut pas s'adresser de la même façon non plus aux spectateurs, quoi.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais avant de passer la parole à la salle, j'aimerais savoir comment, quand on veut comme ça... dynamiter un petit peu et à la fois la machine de l'information et la fascination que nous tous pouvons avoir pour l'image, et vous le disiez, vous faites partie de la génération, on fait à peu près tous partie de cette génération des mass médias et des médias. Comment on fait pour éviter de reproduire cette même fascination sur la scène d'un théâtre?
C'est l'écueil, il se situe là, quoi. C'est là où on est sur un fil. Je dirais que la chose qui nous protège, j'en suis sûr, c'est quand même le texte. C'est l'élément moteur qui nous protège vraiment de l'écueil de vouloir absolument paraphraser le média en tant que tel, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, Patrick propose une solution poétique, en tous les cas, aux médias. Après, il s'agit pas de. C'est là où il y a deux écueils. Il y a celui-là et puis il y a la parodie aussi, où il faut être très très vigilant. Parce que, encore une fois, moi je ne. Il ne s'agit pas de casser la télévision, il ne s'agit pas de casser les médias, parce que je regarde la télé, j'écoute la radio, j'aime la télévision. Enfin, c'est simplement que par moment, ça me fait mal de voir comment on se désensibilise petit à petit à cause de cet outil-là qui pourrait être parfois beaucoup plus intéressant ou utilisé de manière plus intelligente parfois. C'est simplement ça. Mais c'est pas, on attaque des failles d'un système qu'on peut, je pense, à un moment donné, perfectionner ou améliorer ou être un peu plus à l'écoute du téléspectateur. Et nous, on joue avec ça, c'est-à-dire que le théâtre a la possibilité déjà de s'adresser à des spectateurs avant de s'adresser à des téléspectateurs. Et c'est ce petit pont qui nous permet, nous, de surfer avec l'outil télévisé, quoi, enfin l'outil télévision. Parce que, avant tout, il y a des gens en face de nous et qu'on s'adresse à eux. Contrairement à, on le voit dans le spectacle, où les acteurs s'adressent à des caméras, qui la télé s'adresse à des téléspectateurs. Et on bascule un petit peu de l'un à l'autre et de voir à quel moment on veut s'adresser au spectateur, à quel moment on veut s'adresser au téléspectateur. C'est un petit peu le jeu qui se fait là.
Mais il n'y a aucune image d'actualité particulière dans Shot Direct.
D'actualité, c'est-à-dire.
D'information, enfin, des journaux télévisés.
Si. Si, si, le principe étant quand même, nous on s'est réapproprié les codes du journal télévisé, par exemple pour le 11 septembre. On s'est réapproprié ces codes-là. On a essayé de faire un vrai travail, comme vous disiez tout à l'heure, pour ne pas tomber dans une parodie parce que ça n'est pas intéressant du tout, mais d'essayer de comprendre comment ce mécanisme de parole-là, c'est vrai qu'ils ont une façon de parler qui vous permet quand même d'enregistrer. Moi je vois la télé étrangère, ils parlent à une vitesse mais monumentale, la nôtre aussi, et des fois on n'écoute même plus parce que les reporters embarqués parlent ils doivent mettre, je sais pas, 80 mots secondes, ça va à une vitesse extraordinaire, et on arrive à faire passer en 30 minutes le monde entier dans l'information. Donc nous on s'est quand même dit, mine de rien, la télé, enfin, les médias sont garants quand même de l'actualité. Et si nous on veut en parler, si on veut s'attaquer à ça, il faut peut-être quand même aller le traverser une fois pour après le dynamiter. Donc forcément dans le spectacle, il y a des moments où on assiste à un journal en direct, dans le direct, le direct. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on joue beaucoup avec le préenregistré aussi. Ce qui s'est passé le jour du 11 septembre, c'est là où moi ça m'a marqué, c'est là où j'ai voulu monter Patrick Bouvet parce qu'il y avait une image qui était assez hallucinante. Le jour des attentats, c'était la fameuse image où on avait des gens qui tombaient des tours. Et on avait le présentateur télé qui dit, nous allons vous remontrer ces images de panique. C'est la grande phrase, la fameuse phrase. Et on avait dans l'image une personne qui sautait, qui n'avait pas encore touché le sol, que déjà elle était rembobinée et elle redescendait. Et après, on avait les avions qui venaient. Et si on va sur les sites de télévision aujourd'hui, on a des making-of, c'est-à-dire qu'on met de la musique, on met des violons sur des événements qui aujourd'hui n'ont pas à avoir de violons. Qui sont des événements, je crois, qui sont. C'est notre réalité, et qu'on en fait une fiction petit à petit. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de partir du direct et d'aller déraper du côté justement de la fiction. C'est-à-dire, au bout d'un moment, est-ce que c'était. Oui, les avions ont vraiment percuté les tours, mais on a vu presque Independence Day, là. C'était carrément un film de science-fiction, au bout d'un moment, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce frottement entre la réalité et la fiction.
J'ai souvenir, et je ne vais pas accaparer le micro, mais qu'à l'époque, on disait toujours, c'est mieux qu'un scénario hollywoodien,
Ah
la
ouais.
réalité a dépassé la fiction. C'était
Alors,
une des grandes phrases aussi à l'époque. Hein.
oui, mais c'est une supercherie, parce qu'en fait, nous, on a travaillé sur des archives depuis. On a pas mal travaillé là-dessus, et on a retrouvé des documents. D'ailleurs, un qui est assez marrant, c'est un document, c'est Tranxène, et c'était en 80-85, où il y en a les deux tours avec un avion. Et il y a écrit Tranxène à la hauteur de vos anxiétés. C'est-à-dire que quand même, les deux tours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Il y a eu beaucoup de scénarios catastrophes avant que ça arrive. Et on a voulu en faire d'un seul coup un événement surprenant. C'était très surprenant parce que c'est la première fois qu'on assiste à un direct à la télé. Mais c'est quelque chose que de toute façon, on avait tous, à un moment donné, en tête. Et qu'il y a des gens qui ont déjà imaginé que ce World Trade Center n'allait plus exister, quoi.
Merci Cyril Test. Y a-t-il des questions dans la salle à propos de Shot Direct? À droite. non, au milieu, apparemment pas, au centre gauche non plus, et à l'extrême gauche non plus. Madame.
Je voulais juste vous dire, il y a 2 ans, j'ai vu un spectacle avec Laurent Terzieff sur les poèmes de Brecht, des poèmes assez inconnus, et Brecht, fabuleusement visionnaire, évoquait la disparition des tours balayées par un vent. On ne sait quel vent et d'où venait-il, mais balayées par un vent. Et il évoquait New York sans les tours. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce poème, mais... Vous voyez étonnant, avec ouais. Laurent Terzieff, je n'ai pas du tout les références exactes du poème, mais je me suis dit, mon Dieu, Brecht, il voyait New York sans les Twins. Voilà.
Ça confirme en tous les cas
un peu
ce qu'on dit, oui, complètement.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci Cyril Test. Donc, pardon. Excusez-moi.
Non, je voudrais juste poser une question. À propos des nouvelles, vous avez beaucoup parlé des nouvelles en direct que vous utilisez à travers les médias, enfin la télévision. Est-ce que vous utilisez beaucoup, je suis désolée, je n'ai pas vu votre spectacle, donc c'est une question. Est-ce que vous utilisez par exemple la BBC, CNN, etc., ou pas du tout?
En tous les cas, sans les utiliser, on en fait référence. On fait référence à toutes les chaînes de télévision à un moment donné. Mais bon, c'est une transposition de toute façon. Mais on fait référence aussi, oui, à ces chaînes de télévision aussi.
Parce que je trouve qu'ils ont une manière de présenter les nouvelles qui n'est pas du tout la même qu'en France.
Absolument. Mais c'est très juste parce que nous, quand même, on a travaillé. Je n'ai pas la prétention de m'attaquer à la chaîne anglaise ou américaine parce que déjà, c'est pas ma langue. Donc nous, on s'est quand même bien, on a ciblé quand même les médias français. Particulièrement parce que c'est celle à travers laquelle j'ai traversé le 11 septembre. Mais après, on a surtout fait référence aux autres chaînes de télévision, pas tant pour aller triturer encore une fois autre chose, un autre langage, mais simplement pour raconter l'étendue mondiale que ça a pu avoir, c'est-à-dire la propagation, la déflagration que ça a pu, ces deux tours ont provoqué dans tous les médias de manière mondiale, quoi. Mais c'est vrai, on travaille que sur le français, en tous les cas.
Oui, parce qu'il y a quand même une façon de présenter qui est assez linéaire, enfin,
tout à fait.
Dans le ton et dans le temps. Et je pense pas que, par exemple, la BBC présente avec le même ton, ni le même temps, et CNN non plus, non. Et si on écoute Radio Juive ou les autres, là aussi c'est différent.
Absolument,
et TV5, par exemple, et c'est même intéressant de voir avec le même sujet, la façon avec laquelle les choses sont présentées, c'est pas pareil.
Non, tout à fait. Non, c'est vrai que ça a été ciblé sur 3-4 chaînes de télévision, et qui sont les plus écoutés à l'heure d'aujourd'hui, en tous les cas en France, quoi. Donc c'est très juste, mais c'est vrai. Alors, il ne s'agissait pas pour nous, en tous les cas, d'aller voir de l'autre côté, sinon ça aurait fait peut-être, il nous aurait fallu encore 6 ou 7 mois de résidence supplémentaire.
Non, c'est beaucoup de boulot, pardon, mais...
Parce qu'on n'est pas très bon en anglais, quand même.
Hein. Oui, non, mais je trouve ça...
Mais c'est... Oui.
Parce que c'est pas des news linéaires, c'est des news qui sont... C'est le même sujet, mais c'est pas linéaire. C'est peut-être linéaire en France, mais ça n'est pas linéaire pour moi.
En fait, c'est très musical en France. Quelque part, on a regardé un petit peu en travaillant sur la diction et puis en regardant un petit peu comment ça fonctionne. C'est très, très rythmé, très musical. C'est quelque chose qui est quand même assez obsessionnel au niveau. Et donc, au bout d'un moment, on peut fermer les yeux, on peut faire sa cuisine, on peut téléphoner et continuer à arriver encore à écouter les informations. Parce que c'est un travail de communication quand même qui a été très calculé, très, très bien dit, très bien fait. Donc c'est quand même quelque chose de très musical, qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps, et la façon dont c'est dit, de comment c'est prononcé, à la vitesse à laquelle ça va, on a le rythme dans la tête et on enregistre les informations assez facilement, quoi. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est très différent. Ouais.
Non, parce qu'on passe d'un génocide au sport, par exemple, avec le même ton.
Eh ben c'est ça, c'est de ça dont on parle aussi un petit peu, dans les deux shots directs. comment on surfe avec avec l'information aussi, quoi.
Je sors un tout petit peu de mon rôle, mais je ne résiste pas à l'envie de vous renvoyer. C'est une petite brève dans Le Monde il y a quelques jours, un entretien de Patrick Lelay dans un livre évoquant les gens qui font les médias et comment ils concevaient la télévision publique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il expliquait que grosso modo, tous les programmes de TF1 donc, étaient conçus pour rendre le téléspectateur disponible à l'heure de la pub. Mais il faut vraiment dire les mots, chaque mot compte. Mais voilà, le moment important pour TF1, c'était le moment de la pub. Mm-hmm. Donc en fait, tout ce qui était programme essentiellement, mais éventuellement information, était fait pour ne faire qu'un bruit qui rendrait le téléspectateur donc disponible au moment du message de pub, qui tout d'un coup change de rythme. Parce que si on parle de musique, on est à un autre moment du rythme. Je sors de mon rôle.
Non mais c'est...
Y a-t-il d'autres questions à propos de Shot Direct ? Apparemment, non. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, pas particulièrement. Je vous remercie.
Merci, donc Cyril Test, Shot Direct.